Nous sommes donc aujourd'hui avec Gisèle Vienne qui va présenter ce nouveau spectacle Crowd après qu'on ait découvert Kinder Totem Leader, notamment durant le festival du TNB. Un spectacle qui interroge notamment notre façon de faire la fête, voire mieux de retrouver un ressenti primitif. On va pouvoir discuter assez longuement, si vous le voulez bien, de cette pièce. Mais avant tout, justement, vous explorez la transgression, le primitif comme plutôt une valeur à défendre, en tout cas à mettre en valeur, alors qu'il me semble, et vous me direz si j'ai tort, que notre société a plutôt tendance à imposer le contraire et à vouloir réguler tout ça. Est-ce que vous partagez ce sentiment-là et est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi cette société est dans ces dispositions ?
Ce qui me semble comment dire évident et constituer la beauté de l'être humain, c'est effectivement la grande variété des sentiments et des fantasmes qui nous animent. Et je pense que nous sommes tous animés par des pensées convenantes et des pensées inconvenantes, et que la personne qui n'ait jamais eu une pensée inconvenante vienne me voir. Et évidemment, ça peut être plus ou moins simple ou extravagant. Je pense qu'on est... Alors, ça dépend tout à fait des sociétés. Moi, j'ai quand même grandi principalement en France et en Allemagne, donc ce sont les communautés que je connais le mieux. Et je pense que le malentendu qui est peut-être... Je suis pas sociologue ni anthropologue, mais qu'entre la mauvaise pensée, le mauvais acte, l'ambiguïté reste malheureusement très vivant, puisque la mauvaise pensée et le mauvais acte ne sont pas du tout la même chose. Justement, et c'est en plus une question, je dirais, d'autant plus d'actualité, sur l'expression de pensées inconvenantes ou de fantasmes immoraux dans le champ de l'art, et reste très controversé. Alors qu'on peut penser que depuis la fin des années 50, les procès intentés à Sade, aux éditeurs de Sade et tous les gens qui les ont succédés font qu'on serait passé à une autre époque et que tout ça serait acquis. Mais visiblement, pas du tout. Ce qui m'importe, c'est bien évidemment la communauté, c'est-à-dire comment est-ce que notre communauté peut exister de manière harmonieuse, et comment est-ce que nos pensées inconvenantes qui existaient et qui existeront toujours, et on peut bien voir, alors voilà, même si j'ai pas une formation de sociologue ou d'anthropologue, on peut bien voir que depuis des millénaires, l'espace d'expression des pensées inconvenantes a toujours été une question que toutes les communautés se sont posées et ont traitées. Donc la question se pose aujourd'hui, par exemple en France ou en Europe, quels sont les espaces possibles ? Le champ de l'art me semble bien évidemment un espace privilégié pour créer un dialogue intime, c'est-à-dire pour moi, c'est, j'espère que le spectateur avec de nombreuses œuvres peut effectivement avoir ce dialogue qui est entre le lecteur, le spectateur, l'auditeur et l'œuvre. Se connaître mieux, se comprendre mieux le monde, comprendre mieux les autres. Et évidemment, tout ça passe par un effort et un désir de comprendre et de sincérité qui va à l'encontre... je dirais d'une hypocrisie qui est assez répandue à cet égard. Par exemple, j'avais fait une pièce qui s'appelle Jerk, qui est facile, parce que c'est un bon exemple. C'est l'histoire d'un serial killer qui a massacré une vingtaine d'enfants. Un sujet absolument atroce, tabou, à la limite de l'inaudible. Je trouve que c'est un bon exemple à prendre, puisque on voit bien que certains médias, lorsque une chose aussi extravagante se passe, en profitent, c'est-à-dire vraiment on va avoir la cave, le détail, les plans, les photos, nanana. Moi, en tant que lecteur qui m'informe, je n'ai pas besoin de tout ça. Ok, on me donne l'information, il s'est passé ça, c'est important de le savoir. Est-ce que jusqu'où j'ai besoin de m'informer et à partir de quand je nourris ma curiosité perverse? Alors, quand je dis curiosité perverse, ce n'est pas négatif. Pour moi, justement, c'est dans un rapport de sincérité. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un accident, il y a une horreur qui se passe. On voit que souvent, les gens ont cette curiosité. Je n'ai pas envie de dire ces gens sont mal, sont pas bien. Ce n'est pas grave, on est comme ça. Je veux dire, regardons-nous comme nous sommes. Mais regardons aussi, c'est-à-dire que je ne m'informe plus. À un certain moment, je ne m'informe plus. Mais j'ai cette fascination qui ne veut pas dire que j'aime ça. Je peux être horrifiée, je peux être inquiétée. Mais l'horreur exerce une certaine fascination qu'il faut reconnaître aussi comme tel. Et alors à ce moment-là, il me semble que quand on rentre dans cet espace-là, du coup, les médias ou certains médias ne sont plus à leur place et qu'effectivement, c'est par exemple le champ de l'art qui peut effectivement permettre de comprendre mieux quelle est cette fascination qui peut nous faire être spectateurs et avoir envie d'être spectateurs de sujets ou d'images ou de paroles qui, effectivement, dans le fond, nous horrifient. Mais voilà, c'est vraiment essayer de comprendre le spectre complexe de ce qui nous constitue, des émotions et de ce qui nous fascine. Voilà, donc mon souci, c'est vraiment de à la fois d'être dans ce rapport sincère déjà à soi-même et aux humains, et du coup, effectivement, de savoir épanouir ces mauvais désirs, ces mauvaises pensées, cette mauvaise curiosité ou je ne sais quoi, tout en l'acceptant comme étant une des richesses et des composantes complexes de l'être humain, et effectivement, dans toute bonne foi, comprendre les espaces qui sont, gérer les espaces justes où on peut épanouir ce dialogue-là. Alors, évidemment, c'est pour ça je pense que dans ces questions-là, il était important, évidemment, d'observer et d'essayer de comprendre au mieux la longue histoire entre les religions et l'art, et que les religions ont souvent eu l'exclusivité de cette fonction-là. L'art extrême que, par exemple, l'Église catholique a représenté. C'est-à-dire, si vous vous amusez à vous balader, particulièrement, j'étais en Espagne, au Mexique, on est dans des représentations absolument extravagantes, de corps massacrés dans tous les sens, indéniablement d'un érotisme ou d'une sensualité trouble. Enfin, personne ne pourra nier à la fois tout l'aspect très transgressif de ces représentations. Qui effectivement donnait à voir ce spectacle ou ces textes ou ces je ne sais quoi aux pratiquants. L'art s'étant, ayant gagné grandement en autonomie par rapport aux religions finalement depuis peu, je trouve que c'est intéressant de se dire c'est depuis peu que l'art est quand même une pratique largement, je parle évidemment de la France, de l'Europe, largement indépendante, et du coup se poser de nouveau la question, quelles sont là et les fonctions sociales de l'art. Je suis toujours embêtée parce que j'ai l'impression de dire des choses qui sont évidentes et en même temps elles ne le sont visiblement pas. Hein, et on voit bien que l'art, dans les discours politiques, on a envie que les artistes soient plutôt... créer des objets qui soient plutôt de l'ordre du divertissement ou des objets pédagogiques. Moi je trouve que le divertissement est aussi une activité essentielle dans notre communauté, la pédagogie bien sûr aussi, et que l'art ne se trouve pas, et je pense que c'est très important, que l'art est encore une autre fonction. Pour moi, c'est un espace, c'est plutôt un espace, ce que je disais, de dialogue intime entre l'œuvre et soi, et du coup entre le monde et soi, et d'autres regards très pluriels sur le monde et sur soi-même. Comment est-ce que je peux... je trouve que c'est vraiment des mises en perspective, et l'art permet ces mises en perspective très sensibles, aussi par le biais de l'émotion, par le biais de l'esthétique, du regard qu'on porte sur soi et sur le monde. Et du coup, ça ne veut pas dire que l'art ne peut pas être divertissant ou ne peut pas avoir des vertus pédagogiques, mais ce n'est pas le contrat. Ce n'est pas du tout, pour moi, ce n'est pas du tout dans le contrat. Ça peut en faire partie. Et du coup, je trouve important. Je ne veux pas comparer le théâtre à la messe. Il n'empêche que je me dis, quand on va dans un endroit, dans une église ou dans un temple ou dans une mosquée ou je ne sais quoi, dans un lieu de culte, ça peut être divertissant. Ça peut être pédagogique, ça peut être instructif, mais je suis peu pratiquante, donc je parle d'une chose que je ne connais pas en fait, mais j'imagine qu'on y va effectivement pour se comprendre mieux, pour comprendre mieux le monde et pour avoir ce type de dialogue intérieur. Et je pense que l'art est un outil fabuleux pour cela, qui n'a pas besoin des religions et du coup qui peut remplir aussi cette fonction pleinement dans un espace laïque. Et je crois que c'est une... j'ai l'impression de dire de grandes évidences, mais j'ai l'impression qu'il faut peut-être les redire encore et régulièrement.
Et alors, pour ces mauvaises pensées qu'il faut accepter, l'art peut servir à les exacerber, éventuellement à les vivre, mais est-ce que c'est un moyen de ne pas passer à des mauvais actes, ou est-ce qu'il faut aussi assumer les mauvais actes, essayer la transgression dans la réalisation concrète?
Alors, là, il faut, comment dire, ce serait plutôt des psychologues qui seraient à même de vous répondre, avec lesquels je dialogue aussi, parce qu'évidemment, en tant qu'artiste, on se pose quand même, on a des responsabilités, et quelles sont les conséquences de ce que l'on invite vos spectateurs à traverser. Mais là, voilà, c'est-à-dire qu'il y a, justement, je pense régulièrement, enfin, ça fait longtemps que j'y avais pas pensé, mais ces derniers temps, avec toute l'actualité, je pense régulièrement à ce procès qui avait été intenté à Jean-Jacques Pauvert, qui avait publié illégalement les textes de Sade, et c'était un procès tout à fait intéressant, et que curieux même, enfin, c'est un texte qui est édité qu'on peut trouver, au tribunal se trouvait tout un tas de grands écrivains et intellectuels qui débattaient autour de cette question. Et oui, est-ce que si je suis spectateur de la violence, est-ce que ça va me pousser ou m'empêcher de passer à l'acte? La question est bien plus complexe que ça. En tout cas, ce qui me semble important, c'est, et les psychologues en parlent bien mieux, mais je pense qu'effectivement un épanouissement de l'être et une meilleure connaissance de soi-même, je l'espère, effectivement, une meilleure lucidité, effectivement, de ce qui met en péril ou pas la communauté, du rapport. Je pense que tout ça est une question de respect, de sens, civil. À partir de quel moment est-ce qu'on a un rapport trouble ou clair? Moi, je pense qu'à partir du moment, effectivement, où on est, je le dis trop simplement, hein, encore une fois, un psychologue ou un sociologue en parlerait bien mieux, mais à partir du moment où on est un citoyen épanoui avec un rapport relativement clair et surtout un rapport très respectueux à la communauté, ben on peut espérer que tous les passages à l'acte qui la mettraient en péril ou qui seraient des actes irrespectueux à l'égard des autres n'auraient pas lieu. En tout cas, je suis quand même assez convaincue que le spectacle de la violence n'engendre pas la violence. Et on peut espérer, mais encore une fois, là, je sais que c'est quand même beaucoup plus délicat, que ce dialogue et même cette expérience, que l'art est une expérience physique, sensible, l'expérience de la littérature, du cinéma, du théâtre, font que effectivement on peut avoir cet épanouissement qui peut-être irait à l'encontre d'un rapport de frustration et d'hypocrisie. Alors voilà, ça c'est très idéal, mais j'y crois quand même, et effectivement j'ai toujours le souci, c'est ce que j'ambitionne, c'est-à-dire finalement que cette émancipation, cet épanouissement rendent le citoyen meilleur et empêcherait peut-être effectivement un rapport irrespectueux et périlleux pour la communauté. Ça c'est très idéal, mais j'y crois tout de même, et je pense qu'effectivement chaque expérience artistique participe de cet épanouissement et en ce sens je crois avoir un rôle, mon ambition d'avoir un rôle social très bénéfique. Alors évidemment ça peut surprendre parce que j'ai souvent mis en scène, ça peut surprendre et pas après tout ce que je vous ai dit, mais j'ai souvent mis en scène effectivement des spectacles ou des émotions ou des pensées inconvenantes ou des expériences, on pourrait dire négatives, ou des émotions troublantes ou le spectacle de la transgression est au cœur de l'œuvre. Et en même temps, ça ne l'est pas, mais je sais qu'on pose régulièrement la question. Et voilà, j'ai eu la grande chance d'aller visiter les grottes en Ardèche, les grottes de Lascaux, et on voit que déjà, il y a maintenant 38 000 ans, le spectacle de la violence et la représentation de la violence était essentiel dans la vie de la communauté de l'homme et de tout temps. Peut-être que voilà, c'est-à-dire que c'est à la fois comment construire une société laïque. Je pense qu'on est encore en train d'y réfléchir. C'est rafranchi des religions ou autonome, en tout cas avec une vie sans les religions, pour moi, ont tout à fait lieu d'être. Je pense que la diversité des rapports au monde est importante. Mais effectivement, en quoi une société tolérante de cette diversité et une société laïque peut effectivement continuer à répondre, on revient peut-être à votre première question, je pense, à ces besoins archaïques et primitifs qui sont encore présents en nous et qui, on peut imaginer, le seront toujours. Je pense qu'il y a la question de qu'est-ce qu'un être civilisé? Alors, évidemment, suite aux attentats à Paris, j'étais très s'est passé en plus juste à côté de chez moi. Donc j'étais, enfin, mais bon, je pense qu'on a tous été très émus et très perturbés par cette histoire. J'étais encore surprise de ce discours disant que la violence est un acte barbare, qu'il faudrait peut-être éradiquer. La violence n'est visiblement pas un acte barbare. C'est un acte d'homme civilisé, on fait le constat. Et que la violence est inhérente à l'homme. Donc reconnaissons-la, acceptons-la et posons-nous plutôt, au lieu de se poser la question de comment l'évincer, c'est, je dirais, comment l'absorber et l'épanouir, de quelle manière pour que la communauté soit mise en péril. C'est plutôt de cette manière-là qu'il faut aborder les choses. Sans avoir étudié très longuement ni la sociologie ni l'histoire de l'humanité. Donc c'est vrai que c'est assez perturbant d'avoir même le président de la République tenir un discours de la sorte. Donc je pense qu'effectivement la question de ce qu'est l'être civilisé, ce qu'est l'être moderne, la société moderne, et ses rapports à... j'avais été très surprise aussi, pour prendre l'exemple de la violence, on m'avait fait une histoire courte en disant, mais la violence, en fait, jusqu'au 19e siècle, était une vertu. L'homme violent était un homme grand, à qui on donnait du pouvoir, et la violence, je dirais, est négative depuis peu, vraiment. Et je me dis, mais c'est vrai que ce sont des mises en perspective qui nous manquent parfois. Donc effectivement, la violence a tendance à être considérée comme quelque chose de négatif. Et encore une fois, la violence, il faut voir tous ses aspects. C'est-à-dire qu'un match de catch ou je ne sais pas, n'est pas, a des vertus très positives. C'est certainement pas une expérience négative. Donc quel type de violence on parle. Et puis j'y suis d'autant plus sensible que... mon père a traduit la biographie de Bertha von Suttner, qui est à l'origine de la notion de pacifisme, donc effectivement qui est très récente, qui à la fin du 19e siècle effectivement amène cette pensée-là avec tout un groupe de gens, avec Nobel et compagnie. Donc c'est vrai que je me dis, voilà, comprendre finalement que notre rapport par exemple à la violence est perturbé, c'est mal c'est mal depuis peu et c'est mal comment, et donc il vient. Mais tout ça doit être pensé à travers différents types de compétences, à travers l'art, à travers la sociologie, la philosophie, la politique et tous les aspects. Donc voilà, de manière un petit peu ce qui m'anime et ce qui probablement m'anime à créer Kinder Total Leader et Crowd et des pièces très différentes.
Dans Crowd, on trouve justement cette dimension cathartique. On a parlé de la grand-messe que peut être le théâtre. La rêve partie en est une autre, avec cette dimension tout à la fois de rassemblement. Et puis, vous dites aussi de escalade de la violence type. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus, sur ce que vous avez analysé dans ces rêves parties-là comme escalade de violence?
Alors justement, donc ça, c'est quelque chose que j'ai dit et que j'ai écrit il y a longtemps. Et entre-temps, enfin, je veux dire, alors que j'étais au tout début du processus créatif et je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui m'intéressait, enfin, ou ce qui l'émanait, ce qui est très beau, je dirais, quand on travaille en tant qu'artiste et avec d'autres humains, c'est que c'est le phénomène, c'est-à-dire que là, la pièce a échappé et n'a pas suivi ce que je voulais, c'est ce qui est magnifique, et effectivement, c'est de regarder ce qui se passe réellement sur le plateau. Et ce que j'ai vu, c'est pas du tout le tableau de l'escalade de la violence, mais plutôt d'une escalade de sensualité, de désir, de plaisir, de jubilation, de... avec effectivement des évocations de situations violentes, des suggestions de situations violentes, mais Crowd est plutôt une pièce qui est plutôt dans cette dynamique-là. Alors ce que je trouve tout à fait excitant là dans le cadre de Red, c'est-à-dire qu'on a présenté Kinder Totten Lieder en novembre dernier. C'est une pièce qu'on avait créée en 2007, donc qui est 10 ans, qui a continué de tourner, donc il y a 10 ans. Et Crowd, qui vient d'être créée en novembre 2007, donc 10 ans après. Et je dirais que ces deux pièces sont... Bon, c'est mon travail, donc évidemment, il y a plein de liens, mais ces deux pièces spécifiquement amènent, je dirais, deux communautés musicales très spécifiques. On peut appeler ça même des tribus musicales. Une qui se réunit autour de la passion pour un genre musical qui est le black metal, et avec Crowd qui est la techno. Et ça a été aussi analysé de manière très intéressante par des sociologues, c'est-à-dire que ces groupes musicaux, ça peut être le punk, le rock, le reggae, créé des structures qui ne sont pas des religions, mais qui ont des liens, c'est-à-dire avec tout un tas de codes, de rituels, une esthétique. Donc c'était intéressant, effectivement. Et du coup, je trouve Crowd, de manière tout à fait différente de Kinder Total Leader, amène aussi une communauté très spécifique qui sont des gens qui se réunissent pour autour d'une, d'abord une passion pour une musique qui est la techno, là, en l'occurrence. Et ce que je trouvais passionnant, c'est effectivement de voir ces cultures musicales alternatives répondent certainement à des désirs, à des manques, à des besoins, des choses que la société telle qu'elle est ne nous offre pas, et ces jeunes gens inventent avec une créativité magnifique. Le reggae, le punk, c'est tout, c'est tout ce qu'il y a avec. Ce sont des idées, ce sont des codes vestimentaires, ce sont des esthétiques, ce sont des manières de se réunir, ce sont des manières de fêter, de penser, d'échanger, et qui sont à la fois extrêmement pertinentes, intéressantes, passionnantes, qui peuvent aussi être maladroites, naïves. Mais je pense que ce spectre large est magnifique. Et je pense que même les naïvetés et les maladresses qui amèneraient à la création de ces communautés sont passionnantes et magnifiques à observer. Donc, du coup, je trouve déjà important que l'on observe ou que l'on s'intéresse à ces créations constantes de nouvelles générations avec le plus grand intérêt, le plus grand respect. Et on retrouve autour de la techno, des choses qui effectivement peuvent ressembler à du néo-paganisme ou du néo-chamanisme, qui sont parfois très pertinentes, parfois très naïves, mais quelle que soit encore la nature le degré de pertinence, en tout cas il est sincère, il est fort, il est profond. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de considérer, des fois je me dis... je crois que j'adore les humains, quoi, et de dire les humains sont ouverts d'esprit, sont curieux, et je pense que n'importe qui cherche à traverser la vie de manière très sincère, très profonde, avec les outils qu'on a, avec les connaissances qu'on a, dans le contexte où l'on est. Je crois que tout le monde est à la recherche, effectivement, quand même d'une grandeur et d'une expérience forte et profonde. Et je ne crois pas que personne soit con ou méchant, ou bête. Et quel que soit, quel que soit l'endroit où l'on est et quels que soient les gens qui nous entourent. Donc je me dis, c'est quand même l'hypothèse de départ que j'ai envie de mettre, et de voir effectivement ce qui anime nos concitoyens et de quelle manière ils essaient d'y arriver, ou ils vont partiellement échouer ou pas, mais de regarder ça avec quels que soient les actes, et les actes heureux ou malheureux, ou le comportement heureux ou malheureux qu'on va voir nos concitoyens. Donc voilà, en tout cas, entre ces deux pièces, je trouvais, du coup, c'était la première fois qu'on les présente ensemble, dans une même saison, dans un théâtre, et je trouvais tout à fait passionnant, effectivement, que les Rennais qui éventuellement auraient vu les deux pièces ou iront voir les deux pièces puissent avoir ce parallèle. Par ailleurs, il y a des choses formelles que l'on retrouve, mais c'est il y a 10 ans et 10 ans après, donc je découvre avec Kinder Totten Lieder. Moi, j'ai étudié longuement la musique, surtout, ensuite la philosophie, et enfin les arts de la marionnette. Donc ça ne répond pas à tout, mais effectivement, ça peut expliquer certains de mes comportements artistiques. Et en tout cas, j'ai dès mes débuts été très intéressée sur le rapport... de l'homme à ses représentations. Pourquoi est-ce qu'on construit... pourquoi est-ce qu'on est mené à construire des sculptures, des icônes, des marionnettes, des personnages de synthèse, c'est un sujet très, très vaste qui peut prendre des millénaires à étudier. Mais en tout cas, je prends ce que j'ai, c'est-à-dire ma vie, pour l'étudier. Et donc, c'est une des choses qui m'avait amenée vers les arts de la marionnette. Et les arts de la marionnette, c'est une... c'est un un espace artistique tout à fait curieux, parce que la marionnette, mais c'est à la fois les sculptures saintes, par exemple, on a un exemple encore très vivant. Alors, souvent les historiens mêlent l'origine des arts de la marionnette aux Égyptiens qui porteraient ces icônes ou ces idoles à travers... à travers la foule. On a un exemple très vivant là au XXIe siècle, c'est-à-dire la Semaine Sainte à Séville, par exemple, ou dans d'autres lieux, où on amène sur des hôtels, on balade de l'église à la cathédrale et retour à l'église, ces représentations de la Vierge Marie. Donc le théâtre de marionnettes a cet aspect extrêmement rituel et religieux, sacré, et en même temps la marionnette a aussi cet aspect complètement déclassé, c'est-à-dire que presque très déconsidéré, c'est-à-dire quand on fait de la marionnette c'est quand même c'est moins chic que quand on fait du cinéma ou de l'art contemporain, et la marionnette peut se retrouver de manière très jubilatoire dans des espaces hyper populaires à travers la ventriloquie ou à travers donc moi quand j'étais, c'est vrai que quand j'étais petite j'adorais le Muppet Show, j'adorais Téléchat, donc c'est aussi des choses qui m'ont un rapport comme ça très excité à ces formes de représentation, donc voilà, c'est ce spectre large qui m'a toujours passionnée dans la marionnette. Et quand j'ai commencé à faire mes propres pièces, j'ai travaillé. Ce qui m'intéressait, c'était aussi de développer un langage d'écriture scénique qui serait dans ce dialogue des corps au corps artificiel. Et j'ai commencé dès mes débuts à travailler avec des danseurs, et on a essayé de construire ou d'inventer différents degrés d'incarnation et désincarnation, de présence et d'absence, et tout ça passe par des mouvements retouchés, par des présences, des états de présence altérés. Ce qui fait que pour être très intelligible pour les auditeurs, on a aussi par exemple travaillé sur des mouvements découpés, retouchés, qui pourraient se rapprocher beaucoup de ce qu'on peut voir au cinéma, les effets de montage, les effets spéciaux, que l'on retrouve beaucoup dans les danses urbaines. Alors ça, ce sont des techniques. Alors mon travail n'a jamais été comparé aux danses urbaines, il n'empêche qu'en coulisses et en cuisine, dans la construction des pièces, il y a beaucoup de liens. Une des grandes différences, et j'en parle parce que vraiment c'est très très visible et très central dans Crowd, et c'est déjà présent dans Kinder Totten Lieder, c'est qu'on n'est pas du tout dans une imitation de ralenti, de reverse, de loop, de gif, mais comment est-ce qu'effectivement, à la fois, je dirais, un sentiment ou un état psychologique peut m'amener à bouger de cette manière-là, et comment bouger de cette manière-là va altérer mon état de présence et mon rapport à la situation. Très simplement, là, si je vais vers vous rapidement ou si je viens vers vous en 5 minutes, évidemment, la situation veut dire autre chose. Et moi, mon rapport émotionnel à vous sera différent. Donc, du coup, ça devient vraiment un jeu ou une langue à pratiquer où on n'est pas dans une imitation. Je ne me dis pas, je viens vers vous comme ça, et puis après, je viens vers vous ralenti. Dans une imitation technique, si vous voulez. Donc ça, c'est un travail très fin et de longue haleine avec les interprètes. Et ce qu'on voit dans Kinder Totten Lieder et qui est complètement exacerbé dans Crowd, c'est des interprètes qui vont parfois être dans un même... qui vont parfois interpréter la pièce avec un même type de retouche, ou parfois des superpositions, c'est-à-dire qu'un personnage on aura un sentiment de temps réel, un autre personnage va être en ralenti, un autre personnage va être immobile, un autre personnage va bouger avec des mouvements saccadés. Donc on a déjà cette superposition dans Kinder Totten Lieder. Évidemment, c'est comme une palette en fait que j'élargis aussi au fur et à mesure des années. 10 années plus tard, j'ai créé Crowd, où là on a 15 interprètes. Évidemment, les jeux de montage, le fait qu'il soit 15, tout simplement, sont beaucoup plus larges, et les superpositions. Donc, qu'est-ce que ça, à la fois, alors ça, voilà, ce type d'écriture a des vertus musicales très fortes, c'est-à-dire qu'on a vraiment, voilà, si on, à la fois si tout le groupe est dans un même état ou si on superpose ces états, c'est quelque chose maintenant que j'ai beaucoup pratiqué aussi, hein, c'est comment est-ce que je compose avec ces outils-là, ont des vertus musicales très fortes et des vertus narratives très fortes, c'est-à-dire qu'effectivement, j'ai une situation, mais si je décide formellement d'utiliser tel ou tel outil, elle signifie tout à fait autre chose et elle m'a invité à développer la pièce d'une manière tout à fait différente. Donc c'est à écrire, c'est passionnant. Et pour le spectateur, dans Crowd, alors voilà, on l'a créé en novembre, on l'a un petit peu, enfin on l'a quand même joué plusieurs fois, enfin même pas mal joué depuis. Donc j'ai déjà des retours de spectateurs et j'ai l'impression qu'une des choses que j'essayais de construire a l'air d'opérer, c'est-à-dire qu'on est dans un rapport où le spectateur de Crowd peut voir très très précisément le détail sur une main, un sac à dos, un chewing-gum, un regard, un clignement d'yeux, une brillance. Puisque dans le fond, le temps est, enfin, les rapports de temps sont complètement perturbés et tordus dans tous les sens dans Crowd. Donc on a concrètement la possibilité de mieux voir ce qui se passe parce que tout est disséqué d'une certaine manière. Et en même temps, ces jeux de rythmique dont je vous parlais tout à l'heure, et qui aussi, évidemment, s'articulent avec la musicalité et le rythme de la musique même, et aussi la musicalité et le rythme de la lumière et de l'espace, en fait. Tout est et ces jeux de vibrations à la fois visuelles, rythmiques et musicales créent un petit sentiment d'hallucination, enfin, ou de perception altérée. Ce que j'avais envie, c'est qu'on ait effectivement à la fois le sentiment d'être un peu stone et de voir tout beaucoup mieux. Un sentiment que je trouve qu'on peut avoir dans les fêtes, c'est-à-dire qu'à la fois on est dans un état second et en même temps on a l'impression d'avoir une perception plus aiguisée. Enfin, je trouve que c'est un état qu'on peut retrouver, enfin en tout cas qui m'a semblé qui était aussi un état caractéristique peut-être de ce type de situation, en tout cas que je trouve assez passionnant en tant que spectateur et amené si possible, c'est très doux, hein, les spectateurs sont pas complètement défoncés à la sortie de Crowd, mais voilà, en tout cas c'est sûr que, et on le sait, hein, ce sont des effets aussi d'hypnose, il y a des qui font qu'effectivement la perception et le corps est dans un état un peu altéré normalement quand on observe cette pièce.
Une dernière question, vous avez cité tout à l'heure votre père via une traduction, votre compagnon a aussi contribué à une partie de la musique de cette pièce et on peut retrouver peut-être dans votre mère qui était plasticienne un certain amour de la transgression aussi. Dans quelle mesure on est influencé comme ça dans sa pratique artistique, dans son comportement artistique comme vous disiez, par les gens qui nous entourent?
Ah ben ça j'aurais de la peine à y répondre. Enfin, je dirais après, on choisit aussi les gens qui nous entourent. Et effectivement, mon compagnon, je l'ai choisi. On ne me l'a pas imposé. Et je l'ai rencontré à travers la pratique de l'art. Hein. On est tous les deux passionnés d'art et on s'est retrouvés en pratiquant l'art. Donc c'est pas un hasard. Hier on présentait Toute une vie d'Ackermann, qui est en fait un film que j'ai découvert grâce à mon très bon ami qui s'appelle Patrick Chia, qui est réalisateur et qui va être présent aussi à Rennes dans deux semaines dans le cadre du Focus sur Vienne, qui est autrichien. C'est mon très bon ami depuis que j'ai 16 ans, c'est la personne à qui je parle le plus probablement. Oui, on s'influence tous, c'est-à-dire qu'évidemment, il m'influence, je l'influence. Et donc, il y a la famille, c'est une chose, et heureusement, c'est pas tout. C'est-à-dire qu'après, on se construit sa famille à soi, et les amis. Moi, j'ai une très grande, une très grande pression pour mes amis très proches. Mon compagnon, c'est une chose que j'adore, mais voilà, je trouve que les amis sont tout aussi importants dans la vie. On se construit, et on a la possibilité de se construire une nouvelle famille. Alors, c'est vrai que j'ai la chance que ma famille ait été, en tout cas, mes parents sont des gens plutôt très intéressants. Je suis bien tombée, et puis après, Jean-Luc Bernat, par exemple, que j'aime beaucoup, mais lui il est plutôt mal tombé, mais il n'empêche qu'il s'est construit une très belle famille par ailleurs. Donc voilà, et c'est une question que mon frère me pose, parce qu'il est très troublé en fait de nos différences. C'est drôle. Lui, il est plutôt tout à fait scientifique. Il n'est pas du tout dans ce même rapport à l'art. On n'a pas du tout les mêmes goûts. Donc, ça veut bien dire qu'on n'est pas, on a les mêmes parents. On a grandi de la même manière. Et lui n'est pas du tout parti dans ces directions-là. Donc après, je crois qu'heureusement, on choisit, on fait ce qu'on veut. Et puis, ce qui est important, c'est d'avoir la force de prendre et de ne pas prendre ce que la... Enfin, puis surtout de prendre ce que la vie nous donne de beau et puis de ne pas prendre... Mais bon, c'est pas toujours évident, hein, et de ne pas prendre ce qui est moins intéressant. Mais oui, en tout cas, c'est sûr que j'ai eu beaucoup de chance. Enfin, je veux dire, je suis bien tombée, quoi. J'ai eu beaucoup de chance et que le contexte familial... C'est-à-dire, ce qui a été peut-être aussi... le rapport, mes parents n'avaient pas de sous, on a mangé, hein, on avait un toit, on a mangé, mais ils n'avaient pas de sous. Et il n'empêche que, voilà, si j'allais plutôt à la bibliothèque quand j'avais besoin d'un livre, mais bon, je veux dire, s'il fallait acheter un livre, payer une place pour aller au théâtre ou aller au musée, c'était aussi évident que d'acheter à manger quand il fallait manger. C'est-à-dire que c'est pas, on ne va pas lire ou pas aller au théâtre parce qu'on n'a pas d'argent, enfin, dans une certaine mesure, hein. Voilà, après on va peut-être... Mais donc du coup, un rapport à l'art qui est aussi essentiel que la nourriture. Donc ça, c'est sûr que ça a été très fort qui me constitue. Je pense qu'il est essentiel ce rapport essentiel à l'art. L'art n'est pas une... pour moi, le rapport à l'art, c'est le rapport au monde et à soi-même. Donc, on ne va pas faire des économies sur le rapport au monde et à soi-même. Et on a en plus une très, 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 très grande chance en France d'avoir quand même un accès si privilégié à tout ça. Et on tourne maintenant dans le monde entier, c'est extraordinaire. Et du coup, ça nous permet de nous rendre compte... l'état de la culture et de l'art dans bien d'autres pays, et vraiment il faut se rendre compte qu'on a une chance inouïe encore en France à la fois dans la création et pour les spectateurs, les lecteurs qui ont un rapport à l'art qui est quand même extraordinaire, enfin, et précieux, très très précieux.